France Inter.
It's morning edition from NPR News.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Pès.
Un jour dans le monde, c'est un jour au Canada ce soir.
C'est plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses liens avec nos alliés fiables comme la France. Nous devons renforcer la collaboration entre nos pays pour assurer notre sécurité.
Le Premier ministre canadien Marc Carney tout à l'heure avec lors de sa première visite en France. Bonsoir Yannick Dumont-Baron.
Bonsoir Fabienne.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis Montréal. Vous êtes journaliste à Radio-Canada, vous y couvrez notamment la politique. Elle est forte cette phrase, hein, renforcer les liens avec des alliés fiables. Carney va d'abord en France, c'est son premier voyage, il est pour l'Europe, il est désormais au Royaume-Uni. Est-ce que c'est inédit pour un Premier ministre canadien de commencer par l'Europe et surtout par la France ?
Je ne sais pas si c'est inédit, mais c'est assez extraordinaire parce que généralement, la tradition, c'est que le premier ministre du Canada, il va, dans son premier voyage, aux États-Unis.
Ben oui.
C'est notre plus grand partenaire. On leur vend beaucoup, on leur achète énormément. Il y a toutes sortes de liens diplomatiques. Il y a des liens de vacances, il y a des liens familiaux, des liens culturels. Donc, la tradition, c'est ça. Là, que ça soit autre chose, quelques jours seulement après que Mark Carney entre en poste, plutôt que d'aller aux États-Unis, c'est clair qu'il y a un symbole. On va en France, après on est en Angleterre, donc les deux pays qui ont contribué à la fondation du Canada à l'époque. Et on termine ce voyage en passant par les terres autochtones dans le nord du Canada. Donc, il y a vraiment un symbole pour dire, d'une part, on a des alliés fiables ailleurs qu'aux États-Unis, mais aussi, on est solide, on va se tenir debout.
Ça veut dire que le message, effectivement, c'est aussi que le nouveau découpage mondial, si on veut, n'est plus proximité géographique, mais fiabilité. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la rupture, elle est consommée entre le Canada et les États-Unis?
Non, je pense pas. Je pense que, c'est d'ailleurs, tout à l'heure à l'Élysée, Mark Carney a pris soin de le dire, si je me trompe pas, c'était à ce moment-là, mais sinon, dans les dernières 24-36 heures, que les États-Unis restaient un partenaire. Ça, on n'efface pas ces liens-là. Je pense que là, ce qu'on tente de faire vraiment, c'est de dire on a d'autres options d'une part. On va le plus tôt possible, avait dit Mark Carney, parler avec Donald Trump aussi. Il y a des liens, il y a des contacts entre Ottawa et Washington. On va pas tout écarter d'un coup, mais c'est certain qu'il y a une remise en question de tout ça. Pensez par exemple à la sécurité des États-Unis. Si vous regardez la carte, on est collé sur les Américains. Donald Trump parle de faire du Canada un 51e État américain. Donc, on se dit, mais est-ce qu'on a besoin d'une armée plus forte? Est-ce qu'on a besoin de se défendre en cas où les États-Unis arrivent? Donc, il y a toutes sortes de questions, il y a toutes sortes de remises en question, peut-être, dans cet ordre géostratégique mondial. Mais on ne va pas laisser les États-Unis tomber, là.
Alors, vous avez dit, effectivement, vous avez cité ce passage en anglais. C'est intéressant, puisque les discours des premiers ministres canadiens sont toujours en français et aussi en anglais. C'est précisément quand il parle anglais qu'il dit « Je suis déterminé à maintenir des relations les plus positives avec les États-Unis, effectivement. » Mais est-ce que c'est une manière de dire que la balle est dans le camp des Américains, maintenant?
Ben ça, je sais pas, parce que c'est comme avec l'Europe, par exemple, ou avec le Mexique, le Canada, ce sont des pays qui ont de la difficulté à comprendre exactement ce que veut Donald Trump avec ses menaces tarifaires. On a pensé au début qu'il voulait qu'on renforce la frontière, donc le plus de sécurité à la frontière canado-américaine. Mais il semble y avoir autre chose. Il y a encore des menaces. Il y a d'autres tarifs qui pourraient venir au début avril. Donc, on tente de comprendre exactement qu'est-ce qu'on veut, ce que veulent les Américains, qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Et les derniers mots qui viennent de Washington, c'est que les tarifs, ils vont être là et ça va être là pour les 4 prochaines années.
On a un peu l'impression, pour l'instant, vous en êtes au stade où au premier qui cédera, en fait. D'ailleurs, quitte à abîmer les deux économies, mais je ne céderai pas le premier, ni d'un côté, ni de l'autre.
Ben oui, le mot qui vient des secrétaires, si vous voulez, donc l'équivalent des ministres aux États-Unis, c'est que s'il y a une récession parce qu'on impose des tarifs et que ça coûte plus cher aux Américains, ben ça sera temporaire et puis c'est pas si grave. Donc on sent vraiment qu'il y a une idée, il y a une logique, on veut ces tarifs et il faut aller jusqu'au bout. Peut-être même peu importe ce que font les Canadiens.
Après, vous l'avez dit, Yannick Dumont-Baron, c'est vrai qu'évidemment les interactions entre le Canada et les États-Unis, elles sont immenses, mais on parle pas seulement effectivement d'économie, on parle de tellement d'autres choses. On parle aussi de culture, on parle de sport, le hockey comme le basket, comme beaucoup de sports où les championnats sont communs. Et au fond, ce qu'on sent, c'est une espèce de sentiment de... C'est même d'ailleurs un sentiment, c'est une trahison en fait, parce que vos histoires s'en mêlent, mais chacun, au cours de son histoire, a tenu à marquer sa différence. Donc, au fond, où est-ce que vous en êtes, les amis, les uns les autres, là?
Très, très bonne question. Le mot trahison, Fabienne, je pense qu'il explique vraiment le sentiment pour plusieurs Canadiens. Justin Trudeau, quand il était premier ministre il y a quelques semaines, a dit que les Canadiens étaient blessés, fâchés. Ça, c'est pas assez fort. Trahison, peut-être, par exemple, l'image qui viendrait, c'est un divorce que quelqu'un dans le couple n'a pas vu venir, par exemple, ou encore, rappelez-vous, le Brexit au lendemain du vote. Mmh. Donc, on est encore sous le choc. Il y a une fibre patriotique canadienne qu'on a rarement vue, en fait. Donc, vous allez à l'épicerie, il y a des étiquettes, les produits canadiens, il y a des guides, il y a des applications pour vous aider à acheter canadien. On sent que les Canadiens vont moins en vacances, là, ce printemps, mais qu'ils changent aussi leur plan pour les vacances d'été, donc aller moins aux États-Unis. On sent qu'il y a tout ça qui est là maintenant. C'est une trahison, mais en même temps, les États-Unis sont juste à côté. Donc, est-ce que ça sera long terme? Ça, on n'est pas là encore. Ça, c'est bien, bien difficile de le dire, mais pour l'instant, on sent en tout cas que l'allié fiable qu'on pensait qu'étaient les États-Unis n'est plus fiable, pour reprendre les mots de Mark Carney.
Après, ce qui est compliqué chez vous, Yannick Dumont-Baron, c'est en matière de commerce, c'est que votre pays est tellement étendu que les échanges se font plus facilement depuis les provinces jusqu'aux États-Unis, en fait. Est-ce que ça a du sens de se dire de mieux intégrer le marché intérieur, ou est-ce qu'on réfléchit à ça aujourd'hui, ou sinon, est-ce que chacun, encore une fois, est en train de se tirer une balle dans le pied, finalement?
Ben, le marché intérieur, on y pense, il y a d'énormes barrières entre les provinces, ce qui fait que par exemple, parfois, c'est plus simple de faire du commerce avec l'Europe ou avec les États-Unis plutôt qu'à l'intérieur du Canada, selon les provinces et ce qu'on veut vendre. Donc, on parle de ça, ça c'est certain, mais si on regarde, par exemple, les pâtes et papiers, le bois d'œuf canadien qui sert à la charpente des maisons aux États-Unis, et l'engrais qui vient, la potasse qui vient du Canada pour servir d'engrais aux États-Unis avant d'être envoyé en céréales au Canada, les économies, elles sont imbriquées. C'est la même chose pour l'automobile. Donc, si on veut défaire tout ça, détricoter tout ça, ça va prendre du temps. Donc, l'impression, là, c'est plutôt qu'il y a un ajustement, mais qu'en même temps, s'il faut changer quelque chose, ça sera sur le long terme, parce qu'à court terme, on est un peu coincé.
Ce matin, Yannick Dumont-Baron, dans la presse, il y avait une lettre de l'ancien premier ministre, Jean Chrétien, c'est un très très vieux monsieur maintenant, qui dit que Trump a unifié les Canadiens comme jamais auparavant. C'est ce que vous nous expliquiez précédemment. Est-ce que vous diriez que toute la donne politique au Canada est désormais remise à plat?
Ben, elle change. En tout cas, je voyais ce matin le message d'une Québécoise qui se disait souverainiste et qui, tout à coup, finalement, grâce à Trump, expliquait-elle, elle a réussi à aimer le Canada, apprécier le Canada. Donc, il y a ce changement-là qui s'opère. Mais le changement, peut-être à court terme, on le voit vraiment politique, hein? C'est-à-dire le parti de Justin Trudeau, maintenant celui de Mark Carney, le Parti libéral, il y a un mois à peine, on le voyait perdant dans les sondages. Mm-hmm. Et là, il est au coude à coude avec le parti d'opposition. Donc, c'est une question, bien sûr, qui est circonstancielle, qui est liée à Donald Trump, mais pour l'élection, donc peut-être pour les prochaines années, ça rebrasse les cartes. Les deux derniers mois ont été vraiment quelque chose que beaucoup de Canadiens n'avaient pas vu venir.
Le leader du Parti conservateur chez vous s'appelle Pierre Poilievre. Il a sans doute d'ailleurs été un peu hâtivement considéré comme le Trump canadien. Enfin, on fait des raccourcis qui sont évidemment trop rapides, mais est-ce qu'il est quand même gêné aux entournures, ce Canada, ce candidat désormais? Son discours sur Trump et sur la souveraineté canadienne, c'est quoi désormais?
Ben, il dit, et il le répète, il va défendre le Canada aussi. Le problème, c'est qu'il est dans l'opposition et aujourd'hui, à la tête du pays, il y a quelqu'un qui a le même message. Donc, lorsqu'on sera en campagne électorale, peut-être dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines semaines, est-ce que les Canadiens vont préférer l'original ou un remplacement? Pourquoi changer si on a déjà une équipe Canada, entre guillemets, qui est là et qui tente du mieux possible de défendre les intérêts canadiens? Donc, ça sera peut-être ça, probablement ça, en fait, la grande question que se poseront les Canadiens. Après, on ira sur les valeurs et les programmes des partis dans d'autres domaines.
Mais est-ce que vous pensez qu'il est plus à même de parler à Trump, d'essayer de calmer le jeu, de trouver des accommodements? Est-ce que ce discours, il est tentant, peut-être, pour certains Canadiens qui savent très bien que leur économie va tanguer et que donc ils vont souffrir?
Ben, je vous dirais, regardez l'Ontario. Le premier ministre de l'Ontario, il est conservateur. Il est dans la même famille politique que Pierre Poilievre. Pourtant, Doug Ford, il est très, très patriotique. Il est celui qui tient tête aux États-Unis, qui tient tête à l'administration de Trump. Après, donc, ça sera peut-être une question d'appréciation sur le style. Est-ce qu'on regarde le CV de l'un ou le CV de l'autre au niveau fédéral et on se dit, il est peut-être à même de le faire. Mais pour l'instant, on a une équipe qui fait tout pour faire avancer une défense canadienne. Donc, cette question-là, je pense qu'elle va devenir importante. C'est-à-dire que on a une équipe en place. Est-ce qu'on veut la changer pour un autre, un leader qui a jamais été au pouvoir? Je vous rappelle, dans le cas de Mark Carney, par exemple, il était gouverneur de la Banque d'Angleterre au moment du Brexit. Alors, dans une crise économique comme celle-là, peut-être que ça va faire pencher certains Canadiens.
La date des élections, elle n'est pas encore fixée. Est-ce que le Parti libéral a tout intérêt dans le contexte à ce qu'elle soit organisée justement le plus vite possible parce qu'ils ont effectivement le bon vent en poupe en ce moment?
Ah, tout à fait, le plus rapidement possible, parce que Mark Carney, comme politicien, on ne le connaît pas trop au Canada. Donc, plus le temps passe, plus la course, elle est longue aussi, plus la campagne, elle est longue. Ben, peut-être qu'on verra un Mark Carney qui est moins intéressant pour le rôle qu'on l'imagine aujourd'hui au Canada. Donc, dans ce sens-là, une campagne rapide pourrait l'avantager et, évidemment, à l'inverse, là, ne serait pas bonne pour Pierre Poilievre.
Dites-moi, Yannick Dumont-Baron, puisqu'on a commencé tout à l'heure en parlant d'Europe, de France, mais aussi de Royaume-Uni, puisque c'est là qu'est votre premier ministre pour l'instant. Ça peut sembler anecdotique, vous allez me dire si ça l'est ou pas, mais peut-être pas tant que ça. Le roi Charles III a invité Trump à une autre visite et ça dit quelque chose parce que normalement on a droit qu'à une visite officielle, en fait, quelle que soit la durée du mandat. Le Canada est bien sûr très indépendant de la couronne, c'est le moins qu'on puisse dire, mais toujours membre du Commonwealth. Donc les liens avec le Royaume sont très forts. Est-ce que ça a du sens pour le Canada, ce geste, ou pas du tout?
Vous voulez dire le geste d'inviter Donald Trump une deuxième fois? Ben, écoutez, je pense que les Canadiens ou le Canada répondraient à ça que le Royaume-Uni et la monarchie gèrent sa politique et ses intérêts, et ça, c'est peut-être une chose qui est séparée. Mais pour le Canada, il y a le Commonwealth. Et le Commonwealth, c'est peut-être ça aussi que va chercher Mark Carney là un peu, c'est-à-dire d'autres marchés, d'autres alliés. Mais ce qu'on voit vraiment avec cette visite, elle a été interprétée comme ça, et l'offre de cette deuxième visite, c'est vraiment une façon de flatter, dans le sens du poil, le président américain, comme on dit, et probablement plus l'amadouer pour les intérêts britanniques que pour les intérêts canadiens.
Vous l'avez dit, ce sera la dernière question, hein. Il vient chercher d'autres marchés, le premier ministre canadien, il vient chercher, consolider des amitiés qu'il considère fiables, il le fait sur le commerce, il l'a fait aussi concernant la guerre en Ukraine, puisqu'il dit textuellement, le Canada répondra toujours présent pour assurer la sécurité de l'Europe. Et là aussi, je me demande au fond, s'il vient vraiment chercher des appuis, s'il vient rassurer, ou s'il vient pour le coup de pied de l'âne à Donald Trump?
Il y a peut-être un peu de tout ça, hein. C'est-à-dire que ramenez-vous à cette idée que même dans leur voyage à l'étranger, souvent les politiciens envoient des signaux à leurs commettants, à leurs citoyens. On est sur le point d'une élection, c'est un nouveau chef. C'est certain qu'il y a une symbolique, un message pour Washington dans tout ça. La visite de Mark Carney et sa rencontre avec Emmanuel Macron s'est repris dans les médias américains aujourd'hui. Par contre, c'est suivi au Canada. Et il y a aussi ce message-là de dire « je suis indépendant, je suis fort et je peux... je peux tenter d'assurer la sécurité et la sécurité économique du Canada. » Donc, il y a peut-être aussi, pour consommation intérieure, un message que Mark Carney envoie lorsqu'il est en France.
Yannick Dumont-Baron, depuis Montréal, journaliste à Radio-Canada, merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde. La suite, ce soir, c'est le reportage. Ça se passe en Serbie, qui a vécu ce samedi sa grosse, plus grosse manifestation. Même, ça fait des mois que les Serbes sont dans la rue pour dire non à la corruption dans leur pays. Ils avaient aussi, vous allez l'entendre, un autre message. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, Xavier Demani, sous les radars.
On ira à Cuba, qui retrouve l'électricité quasiment deux jours dans le noir.
Le Monde à 18h50, c'est vous, Claude Guibal. Bonsoir, Claude.
Bonsoir, et nous, on ira au Yémen, bombardé ce week-end par les États-Unis, 53 morts. Le Yémen devenu un point central des guerres au Proche-Orient.
La BO du Monde, Cyril Sauvage, au salut Cyril.
Bonsoir, ils viennent de Hambourg, de Londres ou d'Amsterdam. De jeunes musiciens turcs de la diaspora se passionnent pour la musique de leurs parents et de leurs grands-parents. C'est le revival de la pop anatolienne.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète commence à peine. Il passe par pas loin d'ici, tiens, par Paris, avec une Britannique qui vit chez nous depuis plus de 10 ans maintenant. Elle s'appelle Fleur Hybird. Le morceau s'appelle Code, estampé liste sur Inter.
To tell you how deep the night is, but life is a mystery, no key to crack the mystery. When I woke up, you're gone. I lay my head back down, the ghost ranch glowing in my inner eye. What do I do about my destiny now? With the bowed-headed beauty, only I receive it. How clearly.
passion went burning from your radio to mine. I keep one ear on the line. Stretched out beneath the dome and dreaming, soul dissolves in geometric blue. Goodbye, goodbye to everyone that's leaving. I understand it, but I cannot explain. What do I do about my destiny now? With a bowed-headed beauty, only I receive it. How? Clearly the lost transmission went burning from your radio to mine. I keep one ear on the line. Now stretched out beneath the dome and dreaming. Now I'm stretched out beneath the dome and dreaming. Now I am stretched out beneath the dome and dreaming. I understand it, but I cannot explain. What do I do about my destiny now?
Le reportage est en Serbie ce soir, où Belgrade a connu ce samedi l'une des manifestations les plus importantes de son histoire. 300 000 personnes ont manifesté contre la corruption du régime d'Aleksandar Vučić. Une énième manifestation après près de 5 mois de mobilisation suite à la catastrophe meurtrière de la gare tout juste rénovée. Vous vous souvenez de cette affaire de Novi Sad. Une constante dans les foules qui protestent chaque semaine. Où est l'Europe? La Serbie, c'est 6,5 millions d'habitants. Candidate à l'UE depuis 2012, le mouvement étudiant brandit les valeurs de la démocratie. Mais l'Europe, on ne l'entend pas, et le reste, c'est Louis Seyé qui raconte.
Cette journée du 15 mars 2025 est déjà perçue comme la plus importante manifestation de l'histoire de la Serbie. Venus en famille, entre collègues ou entre amis, des foules immenses ont exprimé leur soutien aux étudiants et leur opposition au régime corrompu du président Vučić. Architecte de 31 ans, Tara est venue manifester pour l'avenir de ses deux enfants.
Je veux que mes enfants grandissent dans un pays meilleur, dans des conditions sanitaires et environnementales meilleures. Qu'ils soient libres de se déplacer, qu'ils soient libres de penser et de s'exprimer, qu'ils n'aient pas peur. Et que leur vie ne soit pas déterminée par des principes et des attitudes conditionnées par le système corrompu d'une seule personne.
Comme presque à chaque manifestation depuis novembre, les drapeaux serbes flottent au-dessus de cette marée humaine, mais aucun drapeau européen. Pour Nicolas, l'absence du drapeau aux étoiles s'explique par le manque de soutien des dirigeants européens aux aspirations démocratiques des étudiants.
Personne ne prête attention à ce qu'il se passe chez nous, donc ma pancarte, c'est pour faire bouger les gens, pour changer le regard sur notre pays ailleurs en Europe. Je ne suis pas content de l'attitude des dirigeants européens. Tout le monde voit que l'on proteste massivement depuis des semaines maintenant et personne ne réagit.
Justice et état de droit, libertés individuelles, élections libres et transparentes, les valeurs que défendent les étudiants depuis des semaines font écho aux principes fondateurs de l'Union européenne. La Serbie est d'ailleurs candidate depuis 2012, mais pourtant les responsables européens sont restés particulièrement discrets sur ce mouvement qui fait trembler le régime autoritaire d'Aleksandar Vučić. Étudiant en histoire, Martin brandit une pancarte avec le président serbe déguisé en Louis XVI.
Aujourd'hui, la plupart des gouvernements européens sont de droite. C'est pour ça qu'ils soutiennent ce gouvernement. Mais parmi les manifestants ici, les opinions sont divisées. Il y a toutes sortes de personnes, de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, tout. Mais tout le monde a la même boussole qui est la fin de ce pouvoir. La société serbe est depuis longtemps divisée entre aspiration européenne et sympathie pro-russe. Pour préserver l'unité des manifestants, les étudiants ont fait le choix de jouer sur la fibre patriotique afin d'élargir la mobilisation. Selon Anna, une étudiante de 27 ans, l'inventivité et la persévérance de ce mouvement profondément démocratique peut servir d'inspiration ailleurs sur le continent.
J'aimerais que l'Europe s'interroge sur l'état dans lequel elle se trouve et que les gens qui vivent dans d'autres pays voient ce qui les dérange dans leur société et qu'ils s'inspirent de notre exemple pour commencer à améliorer les choses dans leur pays. On ne peut compter que sur nous-mêmes pour changer nos sociétés, mais nous pouvons nous influencer les uns les autres pour changer le monde.
Ces 10 dernières années, l'image de l'Union européenne s'est considérablement dégradée au sein de la société serbe. Alors que le président Vučić n'a cessé d'attaquer les libertés démocratiques, les Européens sont accusés de privilégier leurs intérêts économiques.
Nous croyons dans l'importance de la Serbie dans la sécurité du continent européen et que la Serbie rejoigne le club Rafale.
En septembre dernier, le président Macron est par exemple venu sceller la vente de 12 Rafales à un régime pourtant ouvertement pro-russe. L'analyste politique Philippe Eidus.
Les Européens ont malheureusement certains intérêts économiques avec le régime. Mais ils ont aussi une vision profondément erronée, selon laquelle le président Vučić est un facteur de stabilité dans les Balkans, sans comprendre qu'en fait, un dirigeant autoritaire ne peut pas être un facteur de stabilité durable dans les Balkans. Le seul facteur de stabilité dans la région, c'est une Serbie démocratique, dans laquelle le pouvoir change lors d'élections libres et équitables.
Fragilisé après la gigantesque mobilisation de ce samedi, le président Vučić a mis en sourdine ses menaces de répression et appelé au dialogue, mais il a pour l'instant exclu de quitter le pouvoir.
Louis Seyé pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Xavier Demani.
La luna ilumina las calles de La Habana. No es una nueva película.
Et c'est d'abord à Cuba que nous allons, Xavier, où l'électricité revient peu à peu.
Après deux jours plongés dans le noir, on parle là du quatrième blackout total sur l'île en moins de six mois. Le réseau s'est effondré vendredi après une panne près de La Havane. Il a fallu tout le week-end pour le reconnecter, perturbant ainsi le quotidien des Cubains, privés en plus de téléphone, parfois d'eau et de gaz. La capitale où la lumière devait revenir ce soir, donc dans la très grande majorité des foyers, a connu depuis ce matin des scènes de ruée sur les prises de courant dès qu'elles étaient alimentées pour recharger téléphone ou lampe. Je le disais, c'est loin d'être une première pour les Cubains, régulièrement confrontés à ce type d'événement, en plus des coupures quotidiennes et volontaires du gestionnaire du réseau pour permettre à ces infrastructures de tenir. Il faut dire que les 8 centrales électriques du pays sont vieillissantes, tombent régulièrement en panne et que l'embargo américain ne facilite pas les choses, évidemment. Raison pour laquelle le gouvernement cubain mise désormais notamment sur l'installation de parcs solaires de technologie chinoise.
I have before me a petition by a Nigerian citizen.
Nous parlons à présent de cette sénatrice nigériane qu'on entend et qui se bat contre sa suspension.
Elle s'appelle Natasha Apoti-Uduaga et ne peut plus siéger au Parlement de son pays, au moins pendant six mois. Elle ne percevra pas non plus ses indemnités. Le problème, c'est que cette suspension intervient alors qu'elle a dénoncé publiquement des faits de harcèlement sexuel de la part du président même du Sénat à son encontre. Ce dernier lui aurait notamment proposé de soutenir plusieurs de ses textes si elle prenait, je cite, « soin de lui ». Sa situation illustre, dit Natasha Apoti, la situation des femmes dans son pays, quasiment absente de la représentation politique. La suspension a été prononcée en raison de son indiscipline, répond le Sénat nigérian, au sein duquel une majorité d'élus ont apporté leur soutien au président Akpabio. Il n'y a que 4 femmes dans cette assemblée sur une centaine de membres au total.
Voilà, ça grimpe fort. Nous sommes au Japon, le célèbre mont Fuji, ça se mérite.
Oui, il faut désormais débourser un droit d'entrée de 4000 yens, environ 25 euros pour y accéder. C'est 2 fois plus que l'été dernier. L'itinéraire de randonnée le plus populaire, le sentier Yoshida, sera de nouveau limité à 4000 personnes par jour, avec réservation en ligne obligatoire. Les 3 autres sentiers d'accès au sommet seront aussi payants au même prix. Décision des autorités nippones qui ne concerne que les mois sans enneigement, de juillet à septembre. Une réponse au surtourisme qui touche d'ailleurs tout le pays, pas seulement le mont Fuji. Quasiment plus 50% de fréquentation au Japon l'an dernier. Le nombre de grimpeurs est en baisse, en revanche, depuis l'avant-Covid, mais on en comptait tout de même 200 000 l'an dernier, c'est beaucoup, et des restrictions nécessaires, disent les autorités, pour limiter l'impact environnemental et préserver la sécurité des touristes. La montagne est prise d'assaut durant la belle saison, y compris la nuit, par celles et ceux qui veulent assister au mythique lever du soleil. On peut aussi un peu les comprendre.
Et c'est vrai, merci beaucoup Xavier. À demain, vous partez en faisant un détour par Boston avec Chris Garneau. Dirty Night Clowns, ça parle des cauchemars qu'on fait quand on est enfant. A tout de suite.
Pick me up, hose me down. I'm sorry, boys, about the dirty night clowns. Earth does break the things that we make, like model planes and guppy cakes. I can clear the leaves from here. They're too far under the brush this year.
Garneau, Dirty Night Clowns sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h49, c'est Claude Guibal ce soir.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Et Claude, c'est au Yémen que nous allons, où des dizaines de milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui en criant mort à l'Amérique après les bombardements américains qui ont fait 53 morts ce week-end.
Et oui, Fabienne, Donald Trump s'est en effet juré de faire vivre, je cite, un enfer à la milice rebelle Houthi qui contrôle en partie le Yémen. Ces Houthis qui ont annoncé la semaine dernière reprendre leurs attaques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden contre les navires liés à Israël. Alors ces attaques, elles avaient été suspendues avec la trêve fragile à Gaza, mais les Houthis ont décidé de les reprendre en représailles à la décision d'Israël de bloquer l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Et ces bombardements, en quelque sorte, ce sont le premier acte de guerre du mandat de Donald Trump. Ils montrent à quel point le Yémen est désormais un point central de l'équation au Proche-Orient. En l'espace de 10 ans, en effet, sans qu'on s'en rende en fait vraiment compte, les Houthis sont passés du statut de petite faction rebelle à celui d'organisation politique armée d'une ampleur considérable, en fait, puisque les Houthis contrôlent la partie la plus peuplée du pays, donc le nord, et la capitale, Sanaa. Et c'est vraiment une progression impressionnante, malgré la force de la coalition militaire régionale qui a été mise en place contre une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite.
Alors que les Houthis, eux, sont soutenus par l'Iran.
Absolument. Et les Houthis sont même considérés comme un des bras armés de l'Iran au sein de l'axe de la résistance. Alors l'axe de la résistance, vous savez, c'est cette galaxie de pouvoir et de mouvements armés que Téhéran soutient, finance ou armes à travers toute cette région pour déstabiliser les monarchies sunnites du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. Et l'axe de la résistance, eh bien sûr, sert aussi à atteindre Israël et son principal soutien, les États-Unis. Or, ce fameux axe de la résistance, eh bien, il est très affaibli par les coups portés depuis un an au Hezbollah libanais et au Hamas. La chute de Bachar al-Assad prive l'Iran d'un autre de ses piliers et les Houthis sont désormais le fer de lance de cet axe.
Et leur capacité d'action, Claude, est impressionnante.
Oui, Fabienne, parce qu'en fait, on a assez mal pris la mesure ces dernières années du poids qui était pris par les Houthis, notamment l'ampleur de leur arsenal, un arsenal acquis grâce au soutien de l'Iran, des drones armés, des missiles de croisière, des missiles balistiques, des armes anti-navires qui leur permettent de prendre pour cible des bâtiments civils et militaires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Or, Fabienne, cette région, c'est vraiment une des principales routes commerciales maritimes au monde. 12% du trafic mondial, 75% des exportations européennes quand même passent par là. Et les navires doivent désormais trouver des routes alternatives, ce qui rallonge évidemment les itinéraires et le coût du transport. Les Houthis, qui ont déjà visé des installations pétrolières en Arabie Saoudite, visent aussi le territoire israélien. Ça fait donc aussi un front au sud pour Benjamin Netanyahou. Et Donald Trump, ce soir, eh bien, il précise ses intentions sur son réseau social Truth. Tout à l'heure, le président américain l'a écrit. Chaque coup de feu des Houthis sera considéré à partir de maintenant comme un coup de feu tiré par des armes iraniennes. L'Iran sera tenu pour responsable et en subira les conséquences. Des conséquences, Fabienne, qui, selon Donald Trump, seront terribles.
Claude Guibal, merci beaucoup. Je profite de votre présence, Claude, pour en parler. Si vous voulez, vous qui nous écoutez, en apprendre plus sur le métier de reporter de guerre, sachez que dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école, Radio France propose avec Reporters sans frontières une conférence gratuite et ouverte à tous sur le reportage de guerre. Ce sera avec vous, Claude, et aussi avec Aurélien Colli. Vous nous raconterez le quotidien d'un journaliste dans les différents conflits que vous avez couverts, comme au Proche-Orient ou en Ukraine. Ça se passe donc après-demain, mercredi, studio 104 de la Maison de la Radio. C'est gratuit, mais il faut réserver sa place sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique.fr.
Et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez.
Et ben voilà, on sera ravis. Le lundi, c'est Cyril Sauvageau qui écoute la musique que fait la planète en tournant. Parfois c'est mélodieux, parfois moins. C'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
Entre l'Europe et la Turquie, Cyril, ce soir avec le nouvel album d'une jeune artiste d'origine turque et allemande.
Retenez bien son nom, elle s'appelle Derya Yildirim. C'est une jeune chanteuse et joueuse de baglama, un instrument à cordes typiquement turc. Voici un extrait de son nouvel album avec ses acolytes du groupe Çimçek. Derya Yildirim a grandi à Hambourg dans une famille turque-allemande. Les musiciens qui l'accompagnent sont français et sud-africains, une formation au pédigré multiculturel qui s'abreuve à plusieurs sources musicales, le groove, le funk, l'électro, mélangé au son traditionnel de la musique anatolienne.
Cyril, ce groupe n'est pas le seul à opérer ce genre de fusion musicale. On peut même parler d'une nouvelle vague à part entière.
Et la plupart du temps, ces artistes sont basés en Europe plutôt qu'en Turquie. Citons par exemple le berlinois Mehmet Aslan, les londoniens de Kit Sebastian. Mais le groupe le plus célèbre du genre s'appelle Altin Gun, originaire d'Amsterdam et hébergé sur un label de Genève, Bongo Joe, qui a énormément contribué à faire connaître au public européen cette nouvelle scène turque expatriée. Le point commun à tous ces groupes, c'est une passion un peu nostalgique pour la pop psychédélique anatolienne. Dans les années 70, à Istanbul, la révolution du rock occidental vient percuter les traditions locales et va donner naissance à un mélange assez singulier de guitare électrique, de batterie rock et de sonorités orientales. Sahte yosmalar gibi, haber vermeden, gürültü etmeden. Erkin Koray, un des pionniers de la pop anatolienne, redécouvert ces dernières années à la faveur de compilations très prisées des amoureux de musique psyché sans frontières.
Et le renouveau vient plutôt de la diaspora turque, on l'a bien compris Cyril, mais à Istanbul aussi, cette musique continue de prospérer.
Et pourtant, le contexte politique n'est pas vraiment favorable. La censure, la répression se sont durcies, les groupes stambouliotes ont plus de mal à émerger, à se faire entendre du grand public turc, faute de concerts, de relais médiatiques, surtout s'ils ont le malheur de s'engager politiquement. C'est donc à l'étranger que ces artistes turcs réussissent à trouver le plus de débouchés, en signant sur des maisons de disques européennes ou en tournant dans les festivals. Exemple, le groupe Babazoula. Après 25 ans d'existence, ils sont toujours basés à Istanbul. Leur dernier album, Istanbul Sokaklari, est même conçu comme un hommage à leur ville natale, cette métropole vibrante où subsiste encore, malgré les interdits, une scène underground qui leur permet de s'exprimer. Vous dire que allez-y. Le premier groupe qu'on a entendu ce soir, groupe Çimçek et Delirea Yidirim, seront en concert en région parisienne le 25 mars. Ce sera au Fort d'Aubervilliers au théâtre Zingaro.